Appelez-nous, exprimez-vous. 33 9 693 693 70.
Igor Strauss.
En République démocratique du Congo, les conclusions d'un rapport de l'ONU confirment des attaques de l'armée rwandaise dans l'est du pays et son soutien au groupe armé M23, alors que le Rwanda a toujours nié sa présence sur le sol congolais. Les enquêteurs révèlent que Kigali a fourni des renforts de troupes au M23 pour des opérations spécifiques, notamment pour s'emparer de villes et de zones stratégiques. La prise de Bunagana le 13 juin dernier par les rebelles est citée en exemple. De son côté, Kigali assure que le M23 est un problème strictement congolais. Hier, sur RFI, le chef de la diplomatie rwandaise, Vincent Biruta, a émis des doutes sur l'impartialité de ce rapport, tout en avouant ne pas l'avoir lu. Mais ce n'est pas la première fois que le Rwanda est pointé du doigt. En 2012 et 2013, déjà lors de la première offensive du M23, un groupe d'experts des Nations Unies avait dénoncé un soutien de Kigali au mouvement rebelle. À l'époque, le Rwanda avait également rejeté ses accusations. Alors que pensez-vous de ce rapport? Alors que les autorités congolaises ont demandé récemment l'expulsion du porte-parole de la MONUSCO, que pensez-vous du timing de sa publication? Quelles conséquences sur les relations entre Kigali et Kinshasa? La communauté internationale doit-elle prendre des sanctions contre le Rwanda, comme l'a demandé avant-hier sur notre antenne Christophe Lutudela, le ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo? Eh bien, nous attendons vos commentaires, vos réactions au 33 9 693 693 70 et sur les réseaux sociaux. Voici d'ailleurs certains de vos commentaires. Jean-Louis de Kigali nous écrit « C'est comme une partie d'échecs. Au moment où le porte-parole de la MONUSCO est déclaré indésirable en RDC, il y a un rapport d'experts qui surgit. Je questionne la véracité et le timing de ce rapport. » Mathieu Dabomey, il ne faut pas seulement dénoncer, il faut sanctionner l'État rwandais. Édite de Kinshasa, notre gouvernement doit prendre ses responsabilités et rompre les relations diplomatiques avec le pays voisin. Et enfin, Nicamor de Yaoundé qui dit « Je pense qu'on peut essayer de dialoguer avec le président Kagame, car c'est lui le roi de l'échiquier pour obtenir la paix dans le Nord Kivu. » Enfin, c'est Prévost de Kinshasa qui nous dit « C'est un secret de polichinelle. Ce rapport de l'ONU ne changera rien dans la mesure où, par le passé, il y a eu de tels rapports qui n'ont pas abouti à sanctionner le Rwanda. Et vous, qu'en pensez-vous ? On va tout de suite vous donner la parole. Didier, bonjour. »
Bonjour, bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Didier, vous êtes à Kisangani. Qu'est-ce que vous pensez de la publication de ce rapport?
Effectivement, c'est ce que nous ne comprenons pas pour le moment, parce que à un certain moment, et tout récemment, la MONUSCO disait toujours par la bouche de son porte-parole qu'il n'y avait pas présence des troupes rwandaises en République démocratique du Congo et que les Rwandais ne soutenaient pas les rebelles du M23. Nous sommes un peu surpris, un peu étonnés. C'est peut-être la pression populaire, les manifestations à travers le pays qui ont fait maintenant changer de position à la MONUSCO, parce que ces experts des Nations Unies, ce n'est pas aujourd'hui qu'ils ont fait, qu'ils ont mené leurs enquêtes, ce n'est pas aujourd'hui qu'ils se sont rendus compte que la présence rwandaise est bel et bien en République démocratique du Congo, mais c'est cette pression populaire, cette pression des Congolais qui fait sortir maintenant des tiroirs tout ce qui a été déjà préparé par la MONUSCO. Et c'est ça, nous nous disons, nous ne savons pas si la MONUSCO ou les Nations Unies sont complices de ce qui se passe en République démocratique du Congo, parce que ce n'est pas faisable qu'on ait des rapports qui citent les Rwandais comme agresseurs en République démocratique du Congo et que la MONUSCO ne soit pas en mesure de voir et de dire cela clairement. C'est inexplicable.
Pour vous, c'est au peuple, à la population, de pousser le président Tshisekedi à intervenir, c'est ça?
Et effectivement, si aujourd'hui le chef de l'État ne le fait pas encore, c'est parce qu'il est pacifiste, il veut à ce que, avec le voisin rwandais, des rapports pacifiques puissent régner entre nous. Mais à l'extrême, si cela ne change pas, la population va encore se lever et va pousser le chef de l'État à rompre avec les relations diplomatiques avec le Rwanda. Vous savez, le chef de l'État a été élu par la population congolaise, si la même population dit que nous ne voulons plus de relations avec le Rwanda comme parce qu'il est notre agresseur, je crois que le chef de l'État finira par prendre cette décision.
Merci Didier, merci d'être intervenu depuis Kisangani. On va tout de suite donner la parole à César. César, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour César.
Bonjour Igor, bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Pour vous, il faut que l'État congolais pousse pose un ultimatum au Rwanda.
Moi, par contre, je trouve que c'est la communauté internationale qui doit intervenir, notamment les conseils de sécurité. Parce que, bon, un ultimatum venant du gouvernement congolais, je ne pense pas que ça va aboutir, parce qu'il n'y a pas vraiment un moyen de pression que l'État congolais a envers le Rwanda. C'est beaucoup plus la communauté internationale, notamment le Conseil de sécurité, qui peut imposer au Rwanda un ultimatum. Parce qu'il est clair aujourd'hui, il est clairement établi que le Rwanda est en train de soutenir tous les mouvements rebelles qu'il y a sur le sol congolais, la plupart en tout cas. Et je crois que depuis un certain nombre de temps...
De son côté, le Rwanda accuse également l'armée congolaise de soutenir le FDLR. Donc c'est un petit peu un jeu de dupes. De chaque côté, on s'accuse mutuellement de soutenir un groupe rebelle.
Avez-vous déjà appris que les FDLR ont tué le Rwandais sur le sol rwandais? Avez-vous déjà appris cela? Non, mais ce sont des choses que le Rwanda raconte depuis des années. Le FDLR, la question des FDLR, c'est une raison, un faux fuyant que le Rwanda avance. Mais en réalité, c'est le Rwanda qui est en train de déstabiliser le Congo. Parce qu'au Rwanda, il n'y a pas la guerre. Il n'y a pas la guerre au Rwanda. Et c'est à la communauté internationale d'arrêter avec son hypocrisie et de prendre ses responsabilités de sanctionner le Rwanda.
Mais alors sanctionner, mais comment, comment César? Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour sanctionner?
Écoutez, il y a un barème de sanctions qui est prévu contre les États qui déstabilisent les autres États. Je crois que dans ces barèmes de sanctions, je crois que la communauté internationale doit se servir de ça pour pousser le Rwanda à arrêter avec cette activité sur le sol congolais. Parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Donc c'est comme si on était dans un jeu de dupes. On sait tous que le Rwanda est appuyé par certaines puissances internationales occidentales. Et si ça continue comme ça, je crois que le gouvernement congolais sera obligé de se tourner vers l'Occident, donc vers l'Orient. Et donc c'est pas ça que on veut aboutir. Mais seulement si on est poussé à bout, le gouvernement congolais sera obligé de se tourner vers la Russie. Par exemple, lors des manifestations qui sont passées dernièrement, les Congolais ont demandé à l'unanimité au gouvernement congolais, notamment au président Tshisekedi, de se tourner vers Vladimir Poutine. Vous avez vu avec toutes les interventions du groupe Wagner sur le sol africain, ce qu'il y a eu. Et pour la plupart des Congolais, on peut... bien évidemment, faire appel à la Russie pour mettre...
Alors, il faut peut-être rappeler que là, Anthony Blinken, le chef de la diplomatie américaine, est en tournée, il est en Afrique du Sud en ce moment, mais il va très prochainement venir en RDC, puis au Rwanda. Vous parlez de la Russie, est-ce que la RDC doit se tourner vers la Russie ou poser aussi la question aux États-Unis via Anthony Blinken?
Non, mais moi, je pense que les États-Unis ne nous ont pas aidés. Les États-Unis sont au courant de tout ce qui se passe à l'est du Congo. Je crois que le problème doit être posé à Anthony Blinken d'une manière claire. Et s'il n'y a pas de solution, si les États-Unis n'ont pas de solution, alors on sera obligé de se tourner vers la Russie. Parce que ça n'a que trop duré. Depuis 1996, je crois qu'il y a beaucoup de Congolais qui sont morts. Et le gouvernement, notamment le président Tshisekedi, doit prendre ses responsabilités et écouter la voix des Congolais et tourner vers la Russie pour mettre fin définitivement à cette guerre à l'est du Congo. Je crois que pour moi, c'est ça la solution.
Et vous parliez de sanctions financières, économiques, ça pourrait être une solution également, ça?
Les sanctions financières, je crois que le Rwanda, l'économie du Rwanda, c'est une économie trop faible. C'est une économie trop faible. Je crois qu'elle dépend à 50% ou à 40% de l'aide extérieure. Je crois que si on coupait cette aide-là, ça va certainement pousser le président Kagame à arrêter avec son soutien au groupe. Aux groupes armés à l'est du Congo. Je crois qu'il faut y aller maintenant, d'une manière forte. Il faut arrêter de cajoler le Rwanda.
Merci. Merci César et bonne journée à vous. On a bien compris le sens de votre propos. Et merci à vous et bonne journée à Lubumbashi, 33 9 693 693 70. Si comme César vous souhaitez intervenir dans ce débat, et nous accueillons à présent Augustin de Kisangani. Bonjour Augustin.
Bonjour. Bonjour à tous les auditeurs de la RFI.
Merci. Bonjour Augustin. Pour vous, dénoncer c'est bien, mais des actes politiques doivent suivre désormais.
Exactement. Je crois que comme nos amis, notre ami de Lubumbashi l'a signifié un peu quelques temps avant moi ici, nous sommes très fatigués de tous ces rapports-là des Nations Unies sur l'implication du Rwanda par rapport à la déstabilisation de notre pays à l'Est. Et donc, plusieurs fois, nous avons eu des rapports tels que celui-là qu'on a présenté actuellement, mais en tout cas, on ne croit pas aux retombées positives ou positives plutôt de ces rapports-là. En tout cas, à mon avis, je crois qu'il n'y aura pratiquement rien. Et si la communauté internationale ne s'implique pas personnellement à imposer certaines sanctions au Rwanda pour que le Rwanda comprenne que...
Mais quel type de sanctions de la part de la communauté internationale, justement ? Comment vous voyez ça, vous ?
Moi, je trouve que d'abord, il faut imposer l'embargo des armes au Rwanda, parce que le Rwanda, actuellement, c'est un peu un petit pays qui se croit être un peu, je ne sais pas, victimisé par rapport à quoi. Alors, on lui donne des armes pour se protéger contre je ne sais pas quel ennemi qui n'a jamais attaqué le Rwanda. On parle de FDLR. Les FDLR sont où ? Ils sont venus s'engager ici à 1900.
Oh là, Augustin, restez en ligne. La ligne est très mauvaise, elle est en train de se détériorer. Restez en ligne, on va essayer de régler ça hors antenne. On va accueillir un autre auditeur et puis je vous redonne la parole, Augustin, rassurez-vous. Adabert, bonjour.
Bonjour, bonjour.
Soyez le bienvenu, Adabert. Vous nous appelez, vous, de Lubumbashi. Vous comprenez le propos d'Augustin qui demande bien des sanctions de la communauté internationale.
Oui. En fait, parce que vous savez, avec les Rwandais, tout en ayant Paul Kagame au pouvoir, les Rwandais n'est plus un bon partenaire plutôt pour la paix. Parce que ce qui se passe à l'est de notre pays, c'est un génocide. Nous voulons que, compte tenu de ces rapports, les révélations qui ont été fournies par les Nations Unies, ce sont des révélations très graves. Nous voulons que le secrétaire général des Nations Unies, qui arrive aussi à se prononcer, parce que c'est un rapport qui a été destiné. Nous voulons aussi que, au niveau de l'Union européenne, qu'ils arrivent aussi à se prononcer. Et les États-Unis aussi se prononcent aussi là-dessus. Et l'Union africaine se prononce. Ça, c'est dans un premier temps. Mais au niveau de la République, nous voulons aussi que le président de la République arrive à prendre aussi des mesures très très fort vis-à-vis du Rwanda. Nous voudrons que dans un premier temps, qu'on arrive à expulser l'ambassadeur rwandais qui est à Kinshasa, qui rentre chez les Sadiques, arriver à rompre toute relation diplomatique avec le Rwanda. Et je crois que ça va pousser à un certain moment aux Rwandais de comprendre qu'au niveau de la sous-région, nous avons besoin de la paix. Parce qu'il ne doit pas toujours, à tout le temps, le Rwanda ne doit pas toujours arriver à évoquer les problèmes génocidaires qui s'est passé. Mais ce qui se passe aussi sous les sols congolais, c'est aussi un génocidaire. Parce que je crois bien si nous devons arriver à réfléchir, dans les 5 ou bien 10 dernières années qui se sont passées, est-ce qu'a-t-on appris que les FDLR ont attaqué les Rwandais à partir du sol congolais ? Jamais. Donc les FDLR qu'on a toujours évoqués, ils n'ont
oui, pour vous, c'est un prétexte. C'est ce que disait l'un de vos précédents intervenants dans cette émission. C'est un prétexte. On a retrouvé Augustin. Augustin.
Oui, je suis en ligne.
Je vous laisse, je vous avais promis de vous laisser conclure, donc concluez s'il vous plaît.
Oui, ok. Pour moi, je pense que le Rwanda doit vraiment subir des sanctions concrètes à partir de maintenant, depuis que ce rapport a été connu. Et je crois que même le Rwanda là va toujours récuser. Il va récuser ses rapports parce que c'est plusieurs fois que le Rwanda récuse tous les rapports qu'on établit et qui justifient vraiment sa présence à l'est de notre pays. Et ils vont nier. Ils niaient autrefois même, quand ils étaient à Kisangani ici. Nous, on les voyait sillonner à Kisangani, mais sur les antennes internationales, ils niaient leur présence pendant qu'on les voyait sillonner ici et pendant qu'il y avait la rébellion de 1997. En tout cas, je crois que la première réaction du Rwanda, ce sera de nier sa présence ici. Maintenant que les Nations Unies font ce rapport-là, et disant que le Rwanda est véritablement impliqué dans les troubles de l'Est, alors il faudrait qu'on impose un peu des sanctions concrètes au Rwanda, telles que la cessation des aides économiques. Nous savons que le Rwanda ne peut pas subsister budgétairement sans aide extérieure parce qu'il n'a pas de ressources. Ça, c'est de un. De deux, il faudrait qu'on impose un peu l'embargo sur les armes au Rwanda.
C'est quelque chose qui revient de très nombreuses fois de la part de nos auditeurs, l'embargo sur les armes. Merci Augustin, vous êtes très nombreux à souhaiter vous exprimer, donc merci beaucoup de nous avoir appelé depuis Kisangani. Adabert, vous parliez tout à l'heure de faire appel éventuellement à Anthony Blinken qui se rendra en RDC très prochainement lors de sa tournée africaine. Un autre auditeur, lui, parlait de faire appel aux Russes. Quelle est votre position par rapport à ça ? La RDC doit-elle se tourner vers la Russie ou les États-Unis ?
En fait, c'est une des possibilités. Parce que les Rwandais se considèrent comme étant un privilégié. Alors, il faut arriver à établir un rapport de force là-dessus. Parce qu'on ne doit pas continuer à tout moment à se fier aux Occidentaux au niveau des États-Unis, d'autant plus que les Rwandais, ils sont en train de bénéficier des armes de la part des États-Unis, de la part de la France, tout simplement parce qu'il y a eu un génocidaire. Je tiens à vous dire ceci. Vous savez que le Congo, c'est plus ou moins plus de 450 ethnies. Alors, si chaque ethnie qui se considère comme état minoritaire doit arriver à prendre les armes contre la République, alors vous vous imaginez la suite là où nous serons plongés.
Ouais, ce sera compliqué. Merci d'abord de nous avoir appelé depuis Lubumbashi et bonne journée à vous. On continue les débats, on file à Bukavu. Samy, bonjour.
Bonjour Igor, bonjour à tous les auditeurs de la Radio du Monde.
Pour vous aussi, les grands pays doivent s'impliquer dans le problème entre la RDC et le Rwanda.
Effectivement, parce que je dois le dire en premier lieu, ces rapports qui ont été publiés ne montrent que l'hypocrisie qui est au centre des actions des Nations Unies. Depuis très longtemps, la RDC a toujours souligné l'implication du Rwanda dans le soutien des différents rebelles qui insécurise l'est de la RDC. Il y a les CNDP qui étaient soutenus par les Rwandais, il y a les RCD qui étaient soutenus par les Rwandais, les M23 depuis 2013 jusqu'à aujourd'hui, toujours soutenus par les Rwandais et l'Ouganda. Mais ces mêmes Nations Unies ne parlent jamais, ils gardent toujours silence. Pourtant, il y a des rapports qui sont toujours publiés par les autorités congolaises ou les différentes instances en RDC montrant ou pointant directement les Rwandais comme premier partenaire de ces différentes rébellions qui se visent à l'est de la RDC. Mais malheureusement, ces rapports ne se retrouvaient qu'être rejetés par ces mêmes Nations Unies. Donc aujourd'hui, comment ça qu'il y a une pression de la population qui veut juste chasser la MONUSCO de la RDC, la MONUSCO qui était impliquée dans beaucoup de choses, entre autres soutien également ou encadrement de ces mêmes rebelles, mais également exploitation des minerais. C'est maintenant que les Nations Unies se réveillent pour dire que non, voilà, nous devons maintenant citer les Rwandais directement pour voir si une fois nous pouvons cajoler ces gouvernements et conserver notre position en RDC, mais malheureusement que c'est trop tard déjà, parce que la population est en train de voir ce qui se passe et la population ne pourra pas baisser les bras pour laisser passer. Mais c'est à ce point-là que j'en appelle à un sens des responsabilités et du patriotisme de la part de nos autorités, parce que c'est vrai que nous pouvons parler des sanctions, mais nous savons très bien que c'est le Congo, c'est la RDC qui fait sanctionner les Rwandais.
Bien sûr. Samy, on a bien compris le sens de votre propos. Je suis navré, je vous passe, parce qu'il y a encore beaucoup d'auditeurs qui souhaitent intervenir. En tout cas, bonne journée à vous. À Bukavu, on va accueillir Emmanuel de Pointe-Noire. Bonjour Emmanuel.
Bonjour Igor.
Idem, hein, vous n'avez pas été surpris par la publication de ce rapport?
Non, pas du tout. C'est quelque chose qui est déjà connu, hein, puisque même des généraux rwandais même s'en vantent souvent que leur place, leur guest, c'est dans des pays étrangers qui ont des grands espaces à l'instant de la RDC. Donc du coup, pour moi, il n'y a rien de nouveau, hein, surtout qu'aussi tous les éléments apportés par ces espèces sont là, notamment des images des drones, des témoignages des populations locales. Je pense quand même être fiable. Hein, donc voilà.
Est-ce que dans ce cadre-là, les relations entamées à Luanda, donc en Angola, entre les Congolais et les Rwandais, sont d'ores et déjà terminées? Bon, plus de dialogue possible?
À mon avis, ça n'aura pas de sens parce que, voyez, il y a de l'hypocrisie entre les acteurs impliqués. Vous savez, le Rwanda n'a jamais été sincère dans ces choses-là. Donc, continuer à dialoguer avec un pays qui n'a pas de sincérité, ça n'apportera pas grand-chose. Voyez, donc la RDC plutôt devrait voir des choses autrement.
Et c'est à la communauté internationale, donc, d'intervenir, selon vous?
Non, pas du tout.
Pas du tout.
Non, la RDC, la communauté internationale n'a jamais été du côté de la RDC. Vous voyez, tous ces rapports, mapping et bien d'autres, la communauté internationale n'a rien fait pour la RDC. Plutôt, la RDC devrait en tirer une leçon de l'histoire, qu'il faut former son armée, hein, depuis tout ce temps.
Former son armée, ça c'est aussi un propos qui revient de nombreuses fois. Merci Emmanuel, je vous coupe parce que c'est la fin de cette émission. On en restera là donc, sur la formation de l'armée congolaise. Demain, nous parlerons bien de la tournée africaine du chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken. Une tournée qui débute en Afrique du Sud et qui se poursuivra en RDC et au Rwanda. On en parle demain. Très bonne journée à tous.
Atlantique Premium, la carte de crédit de Banque Atlantique, renouvelable jusqu'à 10 000 euros, sans contact, avec abonnement à un programme de fidélité, vous a proposé l'émission Appel sur l'actualité.
Banque Atlantique, grandit.